c'est moi qui raconte. Vous pouvez penser, écrire, imaginer ce que vous voulez, c'est votre droit, mais mon histoire reste à moi. Ça vous paraîtra sans doute bizarre, alors où on vous explique que sacrifier son intimité, ça fait partie du métier. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Je sais pas si vous avez remarqué, ces documentaires qui fleurissent sur les plateformes de streaming ou même au cinéma, ces films qui sont un peu comme des journaux intimes, ces portraits d'artistes ou de célébrités qui se racontent par le menu. Je sais ce que vous vous dites, que c'est un débordement d'ego, que ça s'inscrit dans un plan promo, que rien ne peut surgir d'intéressant dans ces images ou dans ces mots, mais à force de voir tous ces films qui prennent la défense de Britney Spears, par exemple, je me dis que c'est quand même passionnant que tout le monde ait un avis sur sa vie, sans même qu'elle donne son propre avis. En fait, ces films perpétuent ce qu'il dénonce, il continue à raconter son histoire à sa place. Et vous savez, c'est pour ça que je regarde avec une certaine jubilation les documentaires de Taylor Swift, de Lady Gaga, d'Aurel San, de Maître Gims, ou même de mon invité d'aujourd'hui, pour leur volonté de prendre en charge leur propre récit, à l'heure du commentaire, de l'opinion, des vérités plus ou moins fantasmées qui se multiplient et que l'on nourrit, à l'heure où tout le monde a un avis qui se vend, qui se monnaie, il faut se poser la question qui parle, qui est le mieux placé pour raconter et pourquoi est-ce qu'on ne serait pas prêt à l'écouter ?
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a décidé de se raconter. Il y a 3 ans, en une poignée de chansons seulement, elle a connu une ascension fulgurante et parfois brutale. Elle a révélé par surprise, une semaine à l'avance, son 2e album, 95. Et dans un très émouvant documentaire, elle revient sur les revers d'un rêve qui lui a un petit peu échappé. Bonjour Angèle.
Mais bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci de me recevoir.
Ce matin, combien de fois est-ce qu'on a raconté votre vie à votre place ?
Oh bah, pas tant que ça je dois dire, mais quand même pour mon jeune âge, souvent.
Qu'est-ce qu'on ressent dans ce cas-là ?
Bah quand c'est bien raconté, et ce qui arrive évidemment, et que ça parle de musique, ce qui est pour moi le plus important, c'est génial. Quand c'est mal raconté et que ça parle pas de musique, là ça a moins de sens.
Ou quand ça révèle des choses que vous auriez pu révéler vous-même, on le
ouais,
voit.
Ouais, ou quand ça révèle des choses qui sont finalement pas vraiment intéressante normalement, qui devrait pas intéresser les gens à ce point.
Mais c'est intéressant, prendre en charge le récit de sa propre vie. Quel sens est-ce que ça a pour vous, particulièrement pour vous qui êtes encore jeune, Angèle ?
Bah tout à fait. Bah ça a du sens quand ça peut peut-être déjà réparer des choses qui ont été brisées, cassées à un moment. Et ça a du sens aussi quand ça peut quand je peux y mettre en fait le sens que je veux et que je peux arriver à des conclusions. Il y avait un côté thérapeutique à ce documentaire et il y avait un côté aussi bah, de remercier en fait les gens qui me soutiennent et qui me suivent en leur donnant accès à cette part de moi qui est la plus vraie possible. Quoi.
Et d'empouvoirment aussi, de prendre
exactement
la puissance. J'ai noté que dans vos chansons, dans l'album 95, ben, ces chansons elles sont pour la plupart à la première personne. C'est pas un hasard.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, quand elles le sont pas, c'est vraiment un choix aussi de pas incarner le texte en jeu. Mais la plupart le sont parce que je crois que c'est un peu un album où je reprends effectivement le pouvoir et le contrôle sur ma vie, sur les thématiques que j'aborde.
Mais je me suis demandé, raconter notamment dans le documentaire, ce que vous avez traversé ces 3 dernières années. À quel moment est-ce que vous en avez ressenti le besoin, Angèle ?
Eh bien, en fait, je pas tout de suite, parce que la création du documentaire, elle s'est faite en différentes étapes. Et quand on a eu la proposition de Netflix, au début, j'avais pas du tout ça en tête. On avait plein d'images d'archives, on avait plein d'images de concerts, de répétitions. Mais finalement, assez peu d'images qui parlaient d'elles-mêmes.
Oui.
Et c'est petit à petit qu'on a construit d'abord des premières versions, mais qui étaient, je trouvais, pas très intéressantes. Et on était plutôt d'accord, on n'arrivait pas à faire quelque chose. Et pourtant, on avait plein de trucs à raconter, moi j'avais plein de trucs à dire, mais on n'avait pas encore trouvé le chemin. Et en fait, c'est un jour où, voilà, on était chez moi, on testait des choses, on ouvrait un peu des boîtes, on allait rechercher un peu des vieux dossiers pour voir qu'est-ce qui allait revenir. C'est en trouvant des journaux intimes qu'en fait le fil rouge s'est dessiné et qu'on a compris que en fait c'était comme ça qu'on pouvait raconter l'histoire, c'était en lisant
oui
des choses qu'on n'avait pas en vidéo, qu'on n'avait pas en audio, mais tout ce que j'avais écrites à un instant T et qui définissent la situation dans laquelle je me trouvais, quelles étaient mes pensées, et c'est comme ça qu'on a réussi à construire une histoire et qui a vraiment pris du sens en fait.
Quand est-ce que l'écriture, qui est au centre de tout, on vous entend, est entrée dans votre vie ? Vous vous souvenez ?
De façon hyper assumée, il n'y a pas si longtemps, quand en fait j'ai commencé à écrire mes premières chansons. Donc, j'en ai écrit quand j'étais ado, mais j'ai vraiment écrit mes chansons en français quand j'avais 20 ans. Mais avant ça, j'ai toujours écrit. Moi, j'ai des journaux intimes depuis le jour où je sais écrire. Quoi.
L'idée, c'était de retrouver en fait l'Angèle qui se cachait à l'intérieur de ses carnets.
Ouais, c'était ça, et c'était de retrouver aussi celle qui avait été un peu perdue par le métier que j'ai choisi, par le fait de grandir et parfois un peu rapidement dans un contexte un peu fou et aussi de voilà une image que j'ai dû me construire. J'étais un peu obligée de me construire une image et il fallait que je trouve le juste milieu en fait.
Et ce qui est assez bouleversant, c'est qu'on se rend compte que petite, faire de la musique, vous aimiez ça, mais pas au point de souhaiter en faire votre métier. Il y avait une réticence.
Ouais. Bah en fait, je pense que aujourd'hui, je me le dis, je devais probablement être vraiment faite pour ça, parce que je crois vraiment que la musique faisait partie de ma vie, mais le fait de chanter, le fait de, enfin moi je me mettais dans l'escalier, je créais mes vêtements et je chantais toute la journée. Mais comme c'était le métier de mes parents et que j'avais pas l'impression que c'était un métier facile, et ça l'est pas, hein, mais je trouve, enfin voilà, voir mes parents galérer m'a vraiment pas donné envie, et je me suis dit, mais moi jamais de la vie, je fais ça en fait.
Mais il y avait cette idée aussi, effectivement, hein, d'être cette pression, hein, d'être fille d'eux, d'être sœur d'eux également. Et puis un jour, on n'a plus parlé de vous comme la fille de vos parents ou la sœur de votre frère, mais de vos parents comme des parents d'Angèle. Et tout ça parce qu'un jour, il faut quand même le rappeler, vous avez sorti ça. Ce titre, il a changé quoi, Angèle ?
Ah bah, c'est le titre qui, c'est le premier titre que j'ai sorti. Et aujourd'hui, je trouve que c'est le plus différent de tout ce que j'ai fait. C'est vraiment l'ovni. Il y a de l'anglais. Je sais pas. J'ai de très très bons souvenirs avec ce titre, et notamment aussi avec le clip qui avait été fait par mon ami Charlotte Abramoff et qui avait été vraiment une sorte de. On s'était révélé là-dedans, on s'était beaucoup amusé à le faire, le titre aussi.
Mais il paraît que quand il est sorti, vous n'arrêtiez pas de pleurer.
Ah, quand il est sorti, j'étais en panique totale. Parce qu'en fait, en plus, je le sortais, moi, c'est moi qui l'ai uploadé sur YouTube. Et donc, j'ai vu en direct les vues, j'ai vu les réactions, j'ai lu les commentaires.
C'est là que vous avez senti que vous commenciez à perdre le contrôle ?
Complètement. J'ai perdu le contrôle à ce moment-là. Mais je réalisais pas que je prenais du pouvoir d'une autre façon, parce que je savais pas du tout ce qui m'attendait, mais moi je me disais que j'avais fait une grosse bêtise, quoi. Et j'ai regretté, j'ai vraiment eu envie de faire marche arrière, et après, bah, je me suis plutôt lancée, quoi.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez l'impression de contrôler, Angèle, à l'heure où paraît votre deuxième album, tout?
Tout et rien. Tout ce que je peux. Alors, d'un point de vue pratique, le maximum.
Dans la production de l'album aussi?
Ouais, dans la création, ça c'est sûr, que ce soit l'album, la musique, les mélodies, tout ça, et ça je l'ai fait, mais c'était pareil pour Brol.
Vous-même, surtout.
Ouais, c'est plus, ouais, ce que je ne contrôle pas en fait, c'est les autres. Mais et tant mieux, hein.
C'est quelque chose de passionnant et de troublant dans le documentaire. Quand est-ce que vous avez compris qu'en tant que personnage public, vous ne vous apparteniez plus vraiment, que le public considérait que vous étiez à lui?
Il y a eu différents moments. C'était un tout, c'était un ensemble en fait d'événements. Quand on se rend compte qu'on va faire ses courses et puis en fait il y a des gens qui nous suivent dans les rayons.
Ouais, il y a cette scène complètement folle, hein, après un concert où vous racontez qu'une mère de famille demande à sa fille de vous attraper les cheveux pour vous retenir et que vous lui signez un autographe.
Ouais. Ouais, bah ça c'est le genre de petit moment dans la vie où on se dit ah ouais, c'est ça donc. Mais il y a ça.
Bah c'est dans ces moments-là où vous m'enviez d'être chauve, Angèle.
Voilà.
Comment vous avez réagi? Qu'est-ce que vous avez ressenti?
Ah bah ce moment-là particulièrement pas bien évidemment, mais c'est un moment parmi d'autres. Je l'ai raconté dans le documentaire parce que je trouvais que c'était une façon assez juste de raconter qu'il y a en fait quand on devient connu, bah il y a ce truc où on est face à plein de gens. Et donc, il y a plein de gens qui ont des caractères différents. Et donc, des tempéraments différents aussi. Donc, on peut se retrouver face à des gens peut-être un peu dangereux. Et d'autres extrêmement bienveillants qui nous envoient de l'amour. Donc, c'est toujours une sorte de duel entre...
Mais ça montre aussi la relation complètement dissymétrique qu'il y a entre l'artiste et son public. Au fond, qu'est-ce que ça représente pour vous, le public? Qu'est-ce que c'est pour vous?
C'est un concept en fait. Ça dépend parce que pour moi il y a deux publics. Je sais pas si les artistes contemporains ils pourraient se retrouver là-dedans, mais moi j'ai le sentiment qu'il y a le public dans mon téléphone et puis il y a le public sur scène. Parce que dans mon téléphone il y a plein de gens et en même temps il y a personne parce que je ne suis face à aucun visage. Parfois c'est des noms,
ce sont des pseudonymes, avatars, ce sont des hologrammes. Voilà. C'est virtuel.
C'est des phrases parfois positives, parfois négatives. Il y a de tout, Et c'est autant génial que, qu'inquiétant parfois, mais c'est là, et ça crée des opportunités, des rencontres. Et après, il y a le public sur scène. Et le public sur scène, c'est celui qui se fait tout oublier, c'est celui qui me rappelle pourquoi je suis là, qui me rappelle que, en fait, ce que je fais, c'est un métier de partage, quoi. Et c'est ça le plus beau, en fait.
Vous savez que dans cette émission, il y en a une qui a un public. Un vrai public virtuel et physique, c'est la culture, évidemment, et son actualité. Lunettes noires et rase les murs. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 6 décembre? Snack Live contre vent, marée et pandémie, faute d'avoir pu déployer ces deux dernières éditions estivales, le rendez-vous musical et gratuit de la Fnac propose dès aujourd'hui une version automnale et hybride de son festival live. Ce soir, le Théâtre du Châtelet à Paris accueillera ainsi trois performances de Cat Power, Curtis Harding et Sofiane Pamart, diffusées en direct sur notre antenne, tandis que 10 autres concerts seront diffusés en streaming sur le site l'éclaireur.fnac.com, avec notamment Ed Sheeran, Laurent Garnier ou The Liminianas. C'est classe.
My name is Lawrence Weiner. I was born and raised in New York City.
Maud Laffin, pionnier de l'art conceptuel, Lawrence Weiner est mort jeudi à New York, il avait 79 ans. Il avait révolutionné le monde de l'art et le rapport créateur-spectateur dès la fin des années 60 en déployant d'immenses aphorismes poétiques sur des murs. Entre le slogan publicitaire et le graffiti, les phrases écrites en lettres capitales colorées étaient pensées pour laisser libre cours à l'interprétation de chacun en fonction de la langue, de l'espace, du contexte et des inscriptions. On peut notamment voir certaines de ses œuvres permanentes sur les murs de la collection Lambert à Avignon. Alors on danse, en fait. Au lieu de la culture techno, la ville de Berlin se voit contrainte de serrer à nouveau la vis face à la menace épidémique. Après avoir réinstauré une jauge de 50% dans les clubs, la capitale allemande va imposer dès mercredi de nouvelles mesures préventives aux boîtes de nuit, notamment l'interdiction de danser. Aussi étrange que ça puisse paraître, les lieux de nuit pourront rester ouverts, les repas et les consommations de boissons y seront toujours autorisés. Mais fini les pattes bourrées, les Mia ou la Sarabande sur le dance floor, c'est dur quand même. Et enfin, tout sur notre mer, la ville de Marseille accueille dès aujourd'hui la 25e édition du Festival de la Méditerranée en images, le Primed pour les intimes. Pendant 6 jours, la manifestation qui questionne les enjeux, le patrimoine, la mémoire et l'identité méditerranéenne propose de découvrir pas moins d'une vingtaine de films documentaires en provenance de 13 pays différents. Ouverte à tous et gratuite, les projections sont réparties entre le MUCEM, la bibliothèque de l'Alcazar et l'Arplex de la Canebière. C'est d'enfer. Et la chanteuse et musicienne Angèle, invitée de Boomerang, exceptionnelle de Boomerang pour la sortie en avance de son deuxième album 95 et pour ce documentaire donc qui vient de sortir sur Netflix, qui retrace votre ascension dans le monde de la musique. C'est intéressant parce que ce qu'on découvre, c'est qu'au départ, c'est surtout les autres qui croient en vous. À commencer par votre manager et ex-babysitter. Quand est-ce que vous avez commencé à vous dire qu'ils avaient peut-être raison, qu'effectivement, vous aviez peut-être quelque chose?
Oh, mais il n'y a pas longtemps. Hein. Je crois que c'était il y a 2 mois. Non, c'est arrivé tard. Sylvie Farr, qui est donc effectivement ma manageuse et qui était ma babysitter à l'époque, c'est une fille que je connais donc depuis que j'ai 4 ans, qui a toujours été une fille super culottée. Et elle dit dans le documentaire, Angèle avait peur de tout et moi j'étais là pour enfoncer les portes et c'est un truc que maintenant on lui ressort tout le temps pour se foutre de sa gueule parce que j'aime bien l'idée, mais c'est assez vrai en fait. J'avais peur de tout quand ça concernait la musique parce qu'effectivement j'avais tellement peur de me planter que j'avais une pression monstre. Là où Sylvie, elle me faisait me sentir invincible. Même dans les moments plus difficiles, parce qu'il y en a eu et qu'elle a toujours été là, toujours à côté de moi, même dans les moments où vraiment je me retrouvais face à une salle entière qui me huait par exemple, Sylvie était là.
Il y a ce moment effectivement et qui est important hein, qui est le premier concert que vous faites avec Damso à l'Archiduc, une salle de concert mythique à Bruxelles, vous montez sur scène, vous commencez à chanter et là
c'était au Splendid à Strasbourg.
Pardon.
Non, mais pas de souci. Mais j'ai fait d'autres concerts à l'Archiduc aussi. Et en fait, là, effectivement, je suis face à un public qui s'attend pas à me voir. Je débarque, en fait, sur une première partie qui est déjà un exercice ultra ingrat et difficile. Ça, j'en ai fait des premières parties, donc dans tous les cas, c'est toujours compliqué. Mais là, il y a une sorte de... c'est un public hip-hop qui a pas trop envie de me voir sur scène. Et en fait, je me fais huer. Mais sauf que ça dure... ça devait durer 20 minutes, ça a duré 15 minutes parce que je suis vite partie. Mais après, c'était 3 mois de tournée où c'était très compliqué. Mais en fait, j'avais Sylvie avec moi. Et Sylvie, je pense qu'elle faisait un déni, mais en tout cas, à l'écouter, c'était surmontable. Et j'avais Damso. Et Damso qui dès la première date où il a senti que c'était compliqué, bah il m'a soutenu. Il a mis les choses en place pour que ça soit moins compliqué pour moi. Il faisait tout pour que je sois à mon aise. Il était super attentif pendant les soundchecks. Et en fait, petit à petit, on a réussi quand même à m'imposer. Et je crois que ouais, je le dois à mon entourage, mais aux gens qui effectivement croyaient en moi là où moi je me sentais pas du tout légitime.
Damso, que l'on retrouve d'ailleurs sur votre nouveau disque 95.
Tout à fait.
C'est unique featuring. Ça s'appelle Démon. Quel démon est-ce que vous partagez tous les deux, Damso et vous?
Je sais pas quel démon on partage parce que j'ai pas envie de parler à sa place. Je crois que, je pense que quand on est sensible. Et quand je dis sensible, c'est qu'on a une sensibilité, qu'on capte des choses. Et ce qui est le cas de Damso, c'est quelqu'un de très intelligent, qui comprend beaucoup de choses. Et donc, je pense que quand on est sensible, je crois qu'on peut vite être anxieux. En tout cas, moi, c'est mon cas. Moi, je suis quelqu'un de très, très anxieuse. Je me pose beaucoup de questions. Je réfléchis beaucoup au fait de réfléchir beaucoup. Et en fait, mes démons, c'est à ce moment-là qu'ils se réveillent, c'est à ce moment-là qu'ils se révèlent. Ouais. Et j'ai aussi mes démons extérieurs, qui sont les démons du monde extérieur. Et ça fait un amas de démons.
Qu'est-ce qui se passe, Angèle, quand vous sentez la présence du public, les projecteurs, juste avant de monter sur scène? Parce que c'est par ces images-là que commence le documentaire. Qu'est-ce que vous ressentez?
Déjà, je dois être honnête, c'est un peu lointain. C'était à 1 an et demi.
C'est vrai.
Et ça commence à être long. J'ai vraiment oublié ce que c'était de chanter, même de chanter en direct. Là, je me dis, je vais devoir chanter en direct. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé.
Vous dites qu'il va y avoir une petite surprise à la fin,
voilà,
c'est bien.
Voilà, je commence déjà à teaser. mais en fait, c'est une sensation assez particulière parce que le corps, il est un peu en alerte.
Ouais.
Et il y a cette adrénaline qui monte, mais en fait, on est très concentré en même temps.
Et une fois que vous arrivez sur scène, qu'est-ce qui se passe? Là, qu'est-ce que vous devenez? Quelle Angèle est-ce que vous devenez?
En tout cas, il y a un instant très étrange qui se passe où je prends pas conscience de ce qui se passe. Je suis pas en pleine conscience, en mode « Ah, je suis sur scène, il se passe ça ». Je crois que je suis en protection, parce que sinon je serais submergée par l'émotion. Et je crois que je fais mon travail, je prends du plaisir. Et parfois, il y a des moments où il y a des prises de conscience, mais c'est à ce moment-là que je peux mettre à pleurer ou être très très émotive.
Vous êtes invincible quand même.
Oh, je crois
sur scène.
Pas. Ah, sur scène.
C'est super Angèle, quoi.
Je crois que ouais. Je crois que sur scène, il y a un truc qui n'est pas le cas dans ma vie de tous les jours. Hein. Mais je crois que sur scène, Mais je suis obligée en fait.
Ouais.
Et puis je suis entourée. Il y a des musiciens, des musiciennes, il y a des danseurs, danseuses. Il y a des gens en fait sur scène qui m'envoient parfois un simple regard dans des moments qui peuvent être compliqués si le public est pas chaud ou si moi je suis pas en forme. Il y a des partages d'énergie aussi qui peuvent se faire sur le plateau.
C'est vrai qu'on ressent, et c'est assez troublant, à ce mélange, pas ce mélange d'ailleurs, que quand on est un artiste, quand on commence à marcher, on suscite autant d'enthousiasme et de bienveillance que d'animosité parfois. Et aussitôt au sommet, certains ont pris un malin plaisir à vouloir vous coincer. Et je pense notamment aux actes de votre frère, Romeo Elvis, qui vous retombe dessus à un moment donné. Comment vous l'avez vécu, ce moment où on vous demande de porter une responsabilité, de répondre, de vous expliquer? Ce qui paraît fou, quand même.
Mais ça paraît fou, mais c'est à l'image de comment les choses sont perçues, en fait. C'est que si on se bat pour le féminisme, c'est qu'il y a une bonne raison. Et la première, c'est que je crois que la misogynie, elle est tellement ancrée qu'effectivement, c'est assez étonnant. Mais on s'est retourné contre moi pour me demander des comptes, en fait.
Vous voulez dire que c'est toujours vers les femmes qu'on se retourne, en fait?
Je dirais pas toujours, parce que je pense qu'on s'est beaucoup retourné contre Roméo et que voilà, on a évidemment les gens aussi demandé à ce que Roméo puisse parler, expliquer, et il l'a fait. Mais je crois que à côté de ça, en plus de ça, il fallait forcément se retourner contre moi.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce que vous dites sur la honte dans le documentaire à ce moment-là. Ça vous est arrivé souvent, Angèle, d'avoir honte sans qu'il y ait aucune raison, en fait?
Ouais. Mais oui, parce que c'était tellement vite que j'avais l'impression que je ne méritais pas ce qui m'arrivait et que je trouvais que c'était injuste. Ok, j'avais beaucoup travaillé, mais je voyais plein de gens qui travaillaient beaucoup et qui n'arrivaient pas au résultat que j'avais. Donc, je ne comprenais pas, en fait, et je me sentais totalement illégitime.
Et comment on sort de la honte? Comment on se débarrasse de ce sentiment-là?
Déjà, quand j'ai réalisé que tout le travail que j'avais fourni, entre guillemets, c'était aussi ça qui portait ses fruits. C'était pas que de la chance non plus.
Ouais.
Mais il y avait beaucoup de chance, évidemment. Je crois que je suis jamais totalement sortie de là parce que je crois qu'en plus, je suis intimement convaincue qu'il y a une part d'illégitimité, toujours, parce que c'est pas que mérité, il y a plein de facteurs qui sont pas juste dus au pur talent de la musique, mais je me dis que je suis là. Donc c'est que voilà, moi je crois à une sorte de destin, j'ai une bonne étoile et qui m'emmène ici, qui me donne cette opportunité, donc je la prends et je me dis que j'essaie d'en faire quelque chose de bien et de beau.
Avec vos anges et vos démons.
Exact.
Parce qu'on va reparler évidemment de tout ça juste après ce titre que vous partagez, donc avec le rappeur Damso sur ce nouvel album 95. Ce titre qui s'appelle Démon, qui est l'unique featuring de l'album. Vous êtes sur France Inter avec Angèle, vous écoutez Boomerang évidemment.
Jusqu'ici tout va bien, enfin ça allait. Confiante de peur de rien avant de tomber. On verra bien demain, mais ça plus jamais. J'ai pas l'air de m'en faire, mais si vous saviez comment c'est dans ma tête, ça me fait briller. L'angoisse me fait la guerre et part en fumée. Jour après jour, je m'habitue à mes ennemis qui me tuent. Et j'apprendrai toutes les vertus. Quand j'en attends, quand je suis déçu, mais grâce à ça, moi j'évolue. Comment faire pour tuer mes démons? Comment manger?
Pas de gros mots radio, faut qu'on passe. Au lieu d'un nicta, non, je dirais grand bien leur face. Portefeuille achromate, ne voit que violet, vert, ice. J'suis dans la zone, rageux, me suis par la trace. Comment faire pour tuer les haineux? Juste en parlant plus, faux rappeur, non. Pour moi, depuis que j'ai d'albums vendus, très sincèrement, si je m'en vais, je ne reviendrai plus. Ils ont exploré autre chose, me perdre dans le cosmos. Ils parlèrent dans mon dos couvert de bêtes, mon cher italien. Dans leur derrière, j'ferai un don de quelques futurs homo sapiens. J'suis l'avatar du game et j'maîtrise les quatre éléments. Je rappe, je chante, je produis, j'écris pour les gens. Je sais comment faire pour tuer tes démons.
C'est toujours la même, hein. Le sourire qui lui mange le visage, la blondeur flamande, l'œil bonne franquette entre la brindille et la géante, mais avec la grâce surtout, c'est quelque chose qui s'improvise pas, que d'autres n'ont pas, avec lequel on est ou pas, et elle l'a, tout en rouge à lèvres, et cardigan à carreaux ce matin, la chanteuse et musicienne Angèle, invitée de Boomerang pour ce deuxième album 95 qui vient de sortir. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le documentaire que vous sortez parallèlement, on assiste, mine de rien, à la préparation de ce nouvel album. Entre le premier et le deuxième album, qu'est-ce qui a changé dans votre approche? Tout simplement.
Ah bah tout. Je suis passée d'une ambiance un peu adolescente à écrire des chansons dans la chambre chez mes parents sans avoir l'idée des enjeux, de ce qui m'attendait.
C'est comme si vous étiez beaucoup plus consciente de ce que vous faites.
Ah ouais, là c'était en pleine conscience et surtout en prenant le contrôle, en reprenant le contrôle en fait, en me disant bah voilà, il y a des choses qui se sont pas bien passé, entre guillemets, pas comme je le voulais ou qui était pas l'idéal, parce que bah j'ai appris un métier en le faisant, et quel métier, parce que c'était intense. Mais j'aime ce métier, j'adore c'est ce que je fais, j'ai envie de continuer.
Mais si on reprend le contrôle, c'est plus difficile de se lâcher. C'est quelque chose qui apparaît aussi.
Ouais.
Quand est-ce que vous vous sentez libre au fond, vous? Parce que c'est le titre de l'une de vos chansons, Libre.
Paf. En fait, je me sens libre beaucoup plus qu'avant, parce qu'avant, je me lâchais beaucoup moins. En fait, j'étais comme, justement, j'étais pas... J'étais peut-être moins adaptée, parce que évidemment j'étais jeune et que je découvrais. J'étais tout le temps en contrôle, mais dans un contrôle pas agréable, parce que j'arrivais pas à me lâcher, j'arrivais pas. Alors de temps en temps, je pouvais être totalement inconsciente des enjeux, notamment quand je suis venue la première fois ici il y a quelques années.
Ouais, c'est vrai.
Je me souviens ne pas réaliser l'importance que cette émission elle avait. Et tant mieux, parce que du coup j'étais pas stressée. Mais parfois, je me mettais la pression monstre et je connaissais pas les codes en fait.
Et là, on sent la pression. Vous dites que l'une de vos craintes, c'est que le public s'identifie moins. Que vos nouvelles chansons soient moins fédératrices. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Angèle?
Mais ça, c'était une inquiétude que j'avais pendant la création de l'album. Et en fait, je me suis rendu compte plus tard que finalement, c'était pas très important. Enfin, que ça dépend où est-ce qu'on met le curseur. Si on veut faire un album fédérateur qui se vend à des millions d'exemplaires, ce que je ne voulais pas faire avec Brawl, mais que j'ai fait un peu malgré moi. Alors oui, à ce moment-là, on peut se poser ces questions-là. Mais après, je me suis dit que c'était finalement mon but, c'était pas en fait de refaire Brawl, parce que ce serait pas, je sais pas, ce serait pas la bonne méthode que de vouloir recommencer quelque chose qui a fonctionné en lui-même et qui a pas eu besoin de. Enfin, on a rien inventé en faisant Brawl comme ça.
Mais je me suis demandé en quoi les chansons que vous écrivez, elles sont parfois le résultat de tout ce que vous parvenez pas à dire, en fait.
Ouais, parce que pour moi la musique c'est un exutoire comme l'est en fait majoritairement l'art dans ma vie, et je trouve que moi c'est dans la musique que j'arrive à m'exprimer le mieux, et en fait je trouve que une chanson, enfin moi ça me touche, une belle chanson quand le texte est beau ça me touche aussi, et en fait c'est quelque chose qui reste dans le temps, et c'est ça que enfin ça dépend, les bonnes chansons elles restent dans le temps, et en fait je crois que c'est la façon la plus simple de faire passer un message, quoi.
Ouais, et c'est ce qui s'est passé avec la chanson « Ta reine » sur le précédent album, qui parle d'une fille qui en aime une autre. Qu'est-ce qui vous a touché, Angèle, dans les retours qu'on vous a fait sur cette chanson-là?
Eh ben, alors qu'elle a été écrite vraiment, bah, comme un peu tout l'album, à l'époque où je prenais pas conscience de l'importance que ça allait avoir, c'est vraiment en concert que j'ai compris qu'en fait je touchais à quelque chose, et que là où moi bah, j'écrivais cette chanson vraiment pour une amie et puis pour quelque chose qui me touchait, je me rendais pas compte en fait que ça pouvait toucher autant de gens.
Vous auriez aimé qu'une chanson comme ça existe quand vous étiez petite?
Ouais, bah il y en avait, enfin quoi que. Ouais, j'aurais aimé. En fait, c'est pas juste la chanson, je crois que c'est aussi le fait qu'il y avait autour ce truc très décomplexé qu'il y a aujourd'hui autour de plein d'artistes, et d'ailleurs féminines aussi, qui sont gays, bi, et qui en parlent de façon très très libérée. Et je crois que j'aurais adoré, adolescente, pouvoir me référer à des artistes comme ça, en fait.
Ce rôle de féministe et de modèle aussi, pour une génération qui s'est construit un petit peu à votre insu, on le comprend dans le documentaire, vous l'assumez pleinement aujourd'hui?
Bah, en connaissant les limites, c'est-à-dire que pour moi, ça se limite alors personnellement j'ai mon combat et ça peut m'intéresser d'en parler en interview parce que je peux pas empêcher, ça fait partie de moi, ça se retrouve dans mes chansons, mais la limite c'est qu'à moi toute seule je peux pas porter tout le combat, et qu'il y a des gens qui passent leur vie à le faire, qui sont militants, militantes, et qui sont là pour ça aussi, que j'écoute, et je trouve que m'accorder à moi seule le drapeau de féministe, bah, ce serait une erreur, parce que on est plein à incarner ce combat, quoi.
Au fond, quand est-ce que vous vous sentez vous-même, Angèle?
Mais franchement, tout le temps, beaucoup plus qu'avant. Alors, évidemment, parfois, je suis obligée de me mettre des parures et des extensions de cheveux pour me donner un peu cette impression de mettre un costume de scène et de pouvoir me mettre dans un rôle aussi de quelqu'un qui va aller sur scène et qui va faire le show. Mais ça fait partie de moi aussi, donc tout le temps.
Alors on va être nous-mêmes, avec ce moment. C'est le moment de faire chanter le clavier qui est devant vous. Vous avez choisi ce matin de reprendre une de mes chansons préférées que vous dédiez à votre maman et qu'on dédie aussi à une certaine mamie Pilou, qui dans le documentaire vous vole un petit peu la vedette. Et c'est dans le documentaire, cette chanson, vous la chantez en faisant la vaisselle, ce qui dit beaucoup de votre perception de la tâche ménagère.
Je la chante très mal d'ailleurs, cette chanson à ce moment-là.
C'est une chanson qui s'appelle « Pour que tu m'aimes encore » de Céline Dion. On y va ?
C'est parti. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Et si tout appellasse, les amours aussi passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme, dans le froid, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu me manques, pour que tu me manques. Fallait pas commencer, m'attirer, me toucher. Fallait pas t'en donner, moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, non, non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, il faut que tu saches. J'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme, dans le froid, dans les flammes. Je te jetterai des sorts, pour que tu me manques. Chanter tes louanges, je ferai nos bagages pour d'infinies vendanges. Des formules magiques, des marabouts d'Afrique, je dirai sans remords pour que tu me manques. Je m'inventerai reine pour que tu me retiennes. Je me ferai nouvelle que le feu reprenne. Je deviendrai ces autres qui te donnent du plaisir. Enfin, je serai les nôtres. C'était les ton désir. Plus brillante et plus belle pour une autre étincelle. Je me changerai en homme pour que tu me manques. Pour que tu me manques. Pour que tu me
classe. Merci. Merci. Merci Angèle qui reprend Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion, rien que pour nous dans Boomerang. Merci d'être venue faire un tour dans cette émission, je rappelle.
Mais merci, avec plaisir.
Angèle, que votre nouvel album 95 vient de paraître, que votre documentaire Angèle est disponible sur Netflix et que vous serez en concert à partir d'avril 2022. Merci aussi à Vincent Désière, à la technique ce matin.